Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Est-ce un signe de l'affaiblissement de Daesh en Irak ? À Fallujah, les tribus sunnites se sont retournées contre l'État islamique. Des combats meurtriers ont lieu depuis vendredi. Des tribus qui ont déjà joué un rôle stratégique aux côtés des Américains pour repousser Al-Qaïda hors du pays. Nous serons à Amman avec Angélique Ferrat au début de ce journal. Aux États-Unis, tous les regards sont maintenant tournés vers le 1er mars, étape clé dans le processus des primaires. Frédéric Carbone va nous expliquer pourquoi. La situation commence à se décanter après les élections de la nuit dernière. François Hollande en Polynésie française ce dimanche. Le chef de l'État est attendu sur le dossier sensible des essais nucléaires. Les habitants demandent une révision de la loi Morin sur l'indemnisation des victimes. Explication à suivre de François Madoff. Enfin, à 12h40, votre rendez-vous avec la face cachée du globe et Nabila Hamel. C'est l'une des deux dernières villes importantes tenues par l'État islamique en Irak. À Fallujah, des combats opposent depuis vendredi les membres de Daesh aux tribus sunnites. Ce matin, un député irakien a lancé un appel pour soutenir ces tribus. Objectif, éviter une complète destruction de la ville et une redite du drame de Ramadi. Des tribus qui, semble-t-il, ont changé de stratégie après avoir accepté en 2014 la tutelle de l'État islamique. Les explications à Amman d'Angélique Ferrat.
Les relations entre les tribus et l'État islamique ont toujours été compliquées, les uns refusant la tutelle des autres. Début février, Daesh a même instauré un couvre-feu après que quelques jeunes aient accroché un drapeau irakien sur un des ponts de la ville. Mais c'est surtout la dégradation de la situation qui a conduit les tribus à se retourner contre Daesh. Depuis des mois, la population civile ne peut pas fuir les bombardements. Des tireurs de Daesh tuent les candidats au départ. Il y a aussi le siège total de la ville imposé par l'armée irakienne et les milices chiites. La population et les combattants sont affamés. Les habitants vivent, disent-ils, de bouillons d'herbe et de thé. Certains se comparent aux habitants des villes assiégées en Syrie. Il n'y a plus non plus de fuel, de médicaments, d'eau potable et d'électricité. Les bombardements de la coalition internationale ont affaibli la résistance des tribus. Des quartiers entiers de la cité ont été détruits. Des centaines de civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués. Depuis deux jours, donc, des tribus se battent dans Fallujah contre les combattants de Daesh. On n'en sait guère plus. Pour elles, il s'agit aussi de préparer l'après-État islamique. Ces rebelles risquent en effet d'être poursuivis pour terrorisme par les autorités irakiennes. Il s'agit aussi pour les sunnites de montrer qu'ils sont capables d'évincer Daesh d'Al-Anbar.
Concernant maintenant la situation en Syrie, un accord provisoire sur une trêve aurait été trouvé. Annonce de John Kerry en déplacement aujourd'hui en Jordanie. Le secrétaire d'État américain aurait défini avec son homologue russe Sergueï Lavrov les modalités d'un accord portant sur la cessation des hostilités. Barack Obama et le chef d'État russe Vladimir Poutine doivent maintenant se parler dans les prochains jours pour la finalisation. Par ailleurs, la ville d'Homs dans l'ouest syrien a été touchée aujourd'hui par un double attentat qui a tué 46 personnes, dont 28 civils, et fait une centaine de blessés. Bilan encore provisoire de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Aux États-Unis, la nuit dernière a conclu la troisième série du processus de désignation des candidats républicains et démocrates pour l'élection présidentielle. Les tendances commencent à se dessiner. Chez les républicains, le milliardaire Donald Trump l'emporte largement en Caroline du Sud et Jeb Bush, qui subit un nouveau revers, se retire de la course. Dans le camp démocrate, Hillary Clinton gagne avec une faible avance sur son seul concurrent, Bernie Sanders. À Washington, la correspondance de Frédéric Carbone.
Pour tous les candidats, les regards sont désormais tournés vers le 1er mars, le vote dans 11 États qui désignera près d'un quart des délégués. Là seulement, la situation arithmétique commencera à s'éclaircir, mais d'ores et déjà, Donald Trump et Hillary Clinton font figure de favoris. Pour Trump, la dynamique est réelle, un tiers des républicains lui sont fidèles et il séduit toutes les franges de l'électorat. Hillary Clinton compte, elle, sur le vote noir dans les États du Sud pour distancer Bernie Sanders. Dans le Nevada, elle a obtenu les trois quarts des suffrages dans cette communauté. Pour autant, un match Trump-Clinton n'est pas inéluctable. Le vote du Nevada prouve que le discours de Bernie Sanders dépasse largement le cadre d'une Amérique blanche, jeune et diplômée. Et chez les républicains, le retrait de Jeb Bush change la donne. Donald Trump pourra moins compter sur une dispersion des voix et Marco Rubio peut réaliser l'unité du parti. C'est vrai en termes de ralliement de personnalité, ça l'est surtout en termes financiers. Les plus gros donateurs n'ont toujours pas choisi leur camp. Marco Rubio a quelques semaines pour leur prouver qu'ils peuvent miser sur lui.
Toujours aux États-Unis, la police annonce avoir arrêté un homme soupçonné d'avoir abattu 5 personnes dans une série de fusillades cette nuit dans l'état du Michigan. Le suspect aurait tiré au hasard depuis le volant de sa voiture sur un restaurant et une concession automobile. En Inde, des scènes de pillage et de multiples incendies dans l'état de l'Haryana, voisin de New Delhi. Les membres de la caste des Jat exigent des quotas pour des emplois dans la fonction publique et des places dans les universités pour leurs enfants. Ils s'estiment oubliés par la politique de discrimination positive menée dans le pays pour les basses castes. Au moins 10 personnes ont été tuées. Les soldats dépêchés sur place ont eu ordre de tirer à vue. Des violences qui perturbent le ravitaillement en eau de la capitale indienne. Les écoles de New Delhi resteront fermées demain pour économiser les réserves. Après 10 ans au pouvoir en Bolivie, Evo Morales peut-il encore convaincre les électeurs ? Un référendum est organisé ce dimanche dans le pays. Les Boliviens doivent dire s'ils autorisent ou non une modification de leur constitution pour permettre aux leaders indigènes de se représenter pour un 4e mandat en 2019. Ces derniers mois, le pays s'est polarisé entre pro et anti-Evo. Pour ses partisans, Morales est un héros du peuple, mais pour ses détracteurs, c'est un dictateur en puissance qui cherche à tout prix à s'accrocher au pouvoir. La fin de campagne a été intense avec des accusations de népotisme. À La Paz, Reza Nour Mahmoud.
Il y a à peine un mois, le oui était en tête des sondages et Evo Morales semblait bien parti pour remporter une nouvelle victoire électorale face à une opposition divisée et manquant cruellement de leaders charismatiques. Mais depuis, deux affaires sont venues assombrir l'horizon du président bolivien. Dans la première, Morales est accusé de népotisme et de trafic d'influence. Il est en effet soupçonné d'avoir favorisé l'une de ses anciennes compagnes, aujourd'hui directrice commerciale d'une entreprise chinoise. Une entreprise qui a ces dernières années plusieurs contrats avec l'État bolivien pour environ 500 millions d'euros, le tout dans des conditions plutôt opaques. La deuxième affaire a éclaté mercredi dernier, 4 jours seulement avant le scrutin. 6 personnes sont mortes lors du saccage et l'incendie de la mairie d'El Alto, la deuxième ville du pays dirigée depuis 2014 par l'opposition. Les troubles ont eu lieu en marge d'une manifestation de parents d'élèves, visiblement infiltrés par des éléments violents. Sur le banc des accusés, des hommes de main de l'ancienne majorité municipale pro-Morales qui aurait agi pour détruire des preuves matérielles d'une affaire de corruption. Ces deux dossiers, fort délicats pour le président, font l'objet d'enquêtes et ont redonné espoir au camp du non avant le vote prévu aujourd'hui.
La correspondance en Bolivie de Reza Nour Mahmoud. Le président François Hollande est en Polynésie française ce dimanche. Première étape d'une grande tournée en Océanie avec Tahiti et Wallis et Futuna, puis en Amérique du Sud. Le chef de l'État aura ainsi visité tous les territoires outre-mer habité pendant son quinquennat, comme il l'avait promis. Des territoires où il est attendu sur le dossier sensible des essais nucléaires. François Madoff.
Des manifestations d'associations antinucléaires sont organisées tout au long du périple de François Hollande en Polynésie. Manifestation des vétérans du Centre d'expérimentation du Pacifique. Ils demandent la révision de la loi Morin sur l'indemnisation des victimes des essais nucléaires de 1966 à 1996. Seuls 2% des demandes ont abouti à des indemnisations et ils veulent que la loi élargisse les conditions d'attribution de cette rente. François Hollande devrait également annoncer un montant fixe de cette dette nucléaire rognée chaque année par les coupes budgétaires du gouvernement. Les habitants s'inquiètent enfin de la présence de plutonium enfoui sous des dalles de béton sur l'île de Hao. Des dalles fragiles, disent-ils, qui pourraient bien s'envoler en cas d'ouragan. L'autre dossier polynésien, comme pour la métropole, c'est le chômage. Il dépasse là-bas les 20%, alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Le prix de l'électricité atteint parfois les 50 centimes le kilowattheure. C'est presque 4 fois plus cher qu'en métropole.
Des précisions signées François Madoff. 4 hommes ont été interpellés lors d'une manifestation hier à Calais. Ils tentaient d'organiser un rassemblement en soutien au général Picmal, l'ancien chef de la Légion étrangère, arrêté il y a 2 semaines lors d'un défilé anti-migrants. La mobilisation d'hier était interdite par la préfecture du département, mais une 40aine de personnes ont tenté de se regrouper.